Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire mentir Jean Anouilh lorsqu'il écrivait « Le texte, au théâtre, c'est encore ce qu'il y a de moins important, ils n'entendent qu'une phrase sur deux. Mais non, monsieur Anouilh, ils ne sont pas sourds, ceux qui se précipitent dans les salles pour tendre l'oreille à ce qui s'y dit. Et s'ils n'entendent pas, c'est sans doute parce que, en face d'eux, sur la scène, les corps des acteurs sont là, mais pas leur voix. » Qu'est-ce que la voix d'un acteur ou d'une actrice? Comment font-ils bloc avec elle? De quelle façon la travaillent-ils? Que dit-elle de ce qui les traverse? Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre Voix d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art dont la gamme s'étire du hurlement jusqu'au murmure. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
N'existe pas avant d'être jouée. En aucune façon. Elle n'existe que sur la scène, par le relais des acteurs. Sans ça, si vous voulez, ça peut être comparé à un memento, une chose pratique pour pouvoir s'en souvenir, enfin l'écriture elle-même. Mais elle n'existe pas avant le plateau. Quand je prends un acteur, je peux dire que je me base à raison de 60 ou 70% sur sa voix.
Bonjour Annie Mercier.
Bonjour Joël.
Vous êtes comédienne, actuellement en tournage dans La fille au bracelet, un film de Stéphane Desmoustiers.
Desmoustiers,
le frère de Anaïs.
Oui.
Film dans lequel vous interprétez le rôle d'une avocate de la défense. C'est très intéressant. On va essayer d'en reparler dans cette émission. Vous allez être bientôt aussi à l'affiche du spectacle Au bois, un texte de Claudine Galéa, mis en scène par Benoît Bradel au Théâtre de la Colline. Vous êtes d'ailleurs devenue une figure récurrente du Théâtre de la Colline, qui est situé dans le 19e arrondissement de Paris, puisque ces dernières années, on vous y a vu à de multiples reprises, que ce soit sous la direction de Stéphane Braunschweig, de Christophe Honoré ou encore de Claude Duparfait. Ce que ces metteurs en scène aiment chez vous, vous le savez sans doute mieux que nous, mais nous on en est sûr, la voix d'Annie Mercier, identifiable entre mille, est une voix dont le théâtre ne saurait se passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marguerite Duras, qu'on vient d'entendre, lorsqu'elle dit que le physique au théâtre est emporté par la voix?
Alors, je pense que la voix est primordiale, mais je pense aussi que le corps est primordial. Je pense que dans l'espace, le corps est très important. Et la voix, qu'est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est un paysage, un timbre, un intérieur, une musicalité, un rythme, une couleur même, voilà, une identité? Moi, je n'arrive pas à dissocier tellement la voix de la présence, de la présence aussi physique, corporelle, qui me semble très importante. Je suis d'accord avec Marguerite Duras quand elle dit une pièce de théâtre, ça passe par les acteurs, quoi, voilà. C'est clair, c'est eux qui incarnent, qui donnent vie, qui apportent la vie, l'émotion, la sensibilité, le rayonnement, la rencontre avec l'autre. La voix, c'est une partie de moi. Parfois, je suis en combat avec elle. Parfois, j'ai la haine avec elle. D'ailleurs, quand elle me lâche, quand elle me trahit, ou qu'elle, par exemple, j'ai une émotion ou un sentiment, et je trouve que ma voix ne va pas au bout de cette émotion et de ce sentiment. Donc, je lui en veux, quoi. C'est une cohabitation qui n'est pas si simple pour moi.
On va reparler de tout ça, Annie Mercier. Est-ce que vous avez parfois eu l'impression d'avoir été engagée pour votre voix? Et là, je ne parle pas des dramatiques radio à France Culture, où sans doute vous avez fait des apparitions.
Oui, mais j'en fais plus du tout. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que j'étais engagé pour ma voix. Je ne crois pas. Et puis cette voix, je dois dire aussi qu'elle a évolué dans le temps. Je n'avais pas une voix aussi particulière quand j'étais plus jeune. Donc la cigarette y est pour beaucoup, évidemment. Mais elle s'est singularisée, vraiment, quoi. Pas toujours, ça ne me fait pas forcément plaisir. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, même quelqu'un, je suis derrière quelqu'un, il m'entend parler, il se retourne et il dit mon nom. Donc ma voix...
Vous précède.
Oui, exactement. Quelle était votre question ?
La question, c'était est-ce que vous avez été engagé pour votre voix ?
Non,
mais vous me répondez que non.
Je ne crois pas, non. Par contre, je vois dans ce tournage-là de cinéma que je fais actuellement, le réalisateur, comme je suis fait face à Anaïs Desmoustiers, qui est très jeune, et moi je représente une autre génération, la sagesse, tout ça, et que Anaïs, elle a un timbre clair et rapide, il me demande, par contraste, moi, de rester dans mes basses, dans le calme, la sérénité. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois.
Un de mes confrères me disait, à propos de problème d'édition, que dans la conversation, il semblait dire qu'il détestait mon pessimisme. Et je lui disais que, je comprenais très bien qu'on puisse dire ça, mais que je me considérais plutôt, si c'était le mot pessimiste qui convenait, comme un pessimiste actif, et que je préfère quand même les pessimistes actifs aux optimistes béats.
Quel est le rapport entre la voix que nous venons d'entendre, Annie Mercier, et vous ?
Ben, je crois la connaître.
Vous séchez ?
Et je sèche.
C'est Jérôme Lindon.
Ah oui. Alors je suis
excusable. Et vous savez pourquoi je diffuse un extrait de Jérôme Lindon dans cette émission ? C'est parce que vous avez joué le rôle de Jérôme Lindon dans la pièce de Christophe Honoré, nouveau roman qu'on avait vu d'ailleurs au Théâtre de la Colline. Donc votre voix, quand même, est-ce qu'elle a joué dans le fait que Christophe Honoré vous distribue dans le rôle d'un homme ou pas ?
Alors peut-être, mais alors ça, je ne me suis jamais posé la question. J'ai été étonné quand il m'a proposé le rôle de Jérôme Lindon. Et moi, comme je suis plutôt pour les aventures et pour briser les limites, et j'ai dit pourquoi pas, mais très bien, très bien. Mais j'ai dit, moi, je ne vais pas me masculiniser à l'image, enfin, vous voyez, dans le costume et tout ça, j'ai dit, bon, je serai traversé par cette parole, et puis c'est tout. Et j'ai été ravi, enfin, et je me suis jamais posé la question du genre, en fait, quoi.
Et pourtant, il y a du masculin dans votre voix, Anne
Mercier. Ah oui, oh, bah oui. Alors, je peux vous le dire, quand je prends un taxi, par exemple, et que je parle au chauffeur de taxi, il me dit bonjour monsieur, nanana. Et au téléphone, on me demande souvent, vous savez, pour les pubs et tout, est-ce que je pourrais parler à Annie Mercier ? Et j'ai dit non, elle n'est pas là. Ah, vous êtes son mari ? J'ai dit oui, c'est ça, voilà.
Vous avez trouvé le moyen de régler le problème des pubs, vous avez bien de la chance, Annie Mercier. Mais Olivier Py raconte la même chose, il dit qu'au téléphone, on lui dit parfois bonjour madame.
C'est vrai.
Parce que lui, il est traversé dans sa voix par le féminin. Cette ambivalence, c'est une richesse pour une actrice de théâtre, non, Annie Mercier ? Il me semble que ça doit pouvoir vous ouvrir plein de possibles, plein de paysages, justement.
Oui, à la fois, quand c'est aussi marqué chez moi, ça peut être aussi une contrainte et puis une restriction, enfin voilà quoi. Parce que moi, j'ai envie de naviguer dans les planètes féminines et masculines, quoi. Et c'est vrai que ma voix est une espèce d'autorité et qui influence souvent le désir des autres, c'est-à-dire on me donne quand même des rôles d'autorité et moi j'ai envie de batifoler, d'être beaucoup plus légère, quoi.
Mais c'est une question que je me posais, parce que lorsque vous avez joué dans le Tartuffe, mis en scène par Stéphane Braunschweig il y a quelques années, vous interprétiez à l'intérieur le rôle de Dorine, la servante, qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'était d'ailleurs un des plus beaux spectacles de Stéphane Braunschweig.
Moi, je suis d'accord. Hein.
Et cette Dorine, elle était rentre-dedans, elle ne s'en laissait pas compter, elle donnait de la voix, au fond. Elle était assez colérique et elle s'opposait beaucoup au maître de maison et à Tartuffe. Est-ce que vous pensez que Stéphane Braunschweig, d'une certaine manière, a modelé le personnage en fonction de vous et justement de votre voix, Annie Mercier ? Qui lui a donné une orientation à cause de ça ?
En fonction de ma voix, je ne crois pas. Peut-être en fonction plutôt de l'ensemble que je suis, quoi, si vous voulez. Moi, je ne suis pas dans la tête des autres non plus. Je ne sais pas comment ils reçoivent ma voix. Hein. Moi, je ne sais pas, ce que ça leur crée chez eux comme image, si vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression que elle se particularise de plus en plus, pas toujours avec plaisir pour moi, quoi. Bon, voilà, c'est l'âge, c'est la cigarette, c'est tout ça. Et je crois qu'avec Stéphane, ça a été plus un ensemble, et puis un caractère que j'ai quand même assez vif, quoi.
Il ressemble à votre voix, votre caractère ? Ou votre voix raconte votre caractère ? Parce qu'on entend bien dans votre voix qu'il y a quelque chose de d'assez assuré, d'assez affirmatif, d'assez résolu. C'est pas une voix qui hésite beaucoup.
Non. Non, mais parce que je trouve que, par exemple, quand je regarde beaucoup de films dans le coffret des Césars, je trouve qu'il y a plein d'acteurs qu'on n'entend pas. Et ça m'énerve vraiment, ça m'irrite beaucoup. Et quand je fais de la transmission avec les jeunes, je dis, mais il faut qu'on vous entende, il faut qu'on ait votre timbre, votre particularité, votre couleur, quoi.
Au fond, vous donnez raison à Jean Anouilh quand il dit, ils n'entendent qu'une phrase sur deux. Au théâtre, le texte ne sert à rien.
Ouais, moi, je pense qu'il faut travailler avec les jeunes acteurs pour qu'on les entende. Cette mode de cinéma, de parler comme ça sans bouger et tout. Moi, je trouve que c'est un enterrement au théâtre.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Voici encore une voix Annie Mercier dans une saison au théâtre, et c'est la voix d'une comédienne avec qui je crois vous auriez bien aimé jouer, la voix donc de Bernadette Lafont.
Ah oui.
J'ai fait 3 mois de travail avec Yva Barthélémy, qui est une dame qui est professeure de grand lyrique, et c'était étonnant parce que j'avais jamais eu... C'est tellement une question de sensation. Elle me faisait sortir des sons, c'était tellement extraordinaire que j'en pleurais. Je crois que ça doit être une des choses les plus fortes comme sensation, le chant. Je n'ai pas une voix, moi, pour chanter du tout. J'admire trop les grandes voix. Alors, pousser la chansonnette, ou alors on fait une rencontre extraordinaire avec un parolier, comme par exemple Gainsbourg et Birkin, où il se passe quelque chose. Mais n'ayant pas eu cette chance-là, donc, je ne chante pas, mais... Qu'est-ce que c'est jouissif de chanter, c'est génial. Pleurer de joie parce qu'on sort des sons, c'est quand même inouï, non ? Ça ouvre des choses. Ça m'a servi d'ailleurs beaucoup pour la respiration, pour le jeu, pour le théâtre.
On va ouvrir, grâce à Bernadette Lafont, Annie Mercier, le chapitre « Secret des comédiens ». On va essayer d'entrer dans les coulisses parce qu'il y a cette expression qui s'appelle « placer la voix ». Qu'est-ce que ça veut dire « placer sa voix » ? Qu'est-ce que ça veut dire « sortir des sons » comme vient de le dire Bernadette Lafont ?
Alors, placer sa voix, malheureusement, on n'est pas tous égaux là sur ce plan-là parce qu'il y a des individus dont on dit « ils ont la voix blanche ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résonateur, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de couleur, quoi.
Quand vous dites résonateur, vous mettez vos mains sur vos pommettes, Annie Mercier, pourquoi ?
Ben parce que ça résonne là, ça résonne là. Voilà, mais c'est des questions de cordes vocales. Celui qui a la voix blanche, c'est un peu compliqué, pour ensuite que ça résonne. Donc que ça résonne d'abord à l'intérieur du corps, mais ensuite que ça diffuse, quoi, dans l'espace. Donc placer sa voix, c'est aussi la connaître, c'est l'apprivoiser, la travailler. Aux jeunes, justement, moi, j'essaie justement qu'ils aient beaucoup de respect et d'amour pour la voix, puisque c'est l'instrument de communication, quoi. C'est la base même d'être avec l'autre. Mais c'est vrai que la notion de travailler sa voix, on vient d'entendre Bernadette Lafont qui parle du chant, et c'est vrai, moi j'ai vu des jeunes pleurer quand ils chantent, quoi. C'est formidable, hein, le chant, ça ouvre quand même beaucoup de portes.
Mais est-ce que travailler sa voix, c'est juste une question de travail physique, c'est-à-dire on s'accorde avec son souffle, j'imagine, ou sa respiration, ou est-ce que c'est aussi un travail mental, Annie Mercier ?
Bah, le travail mental, il existe en tant que comédien, parce que moi souvent, par exemple, quand je m'allonge le soir, je revois dans l'espace mon rôle, ou par exemple pour le film, là, comme j'ai la plaidoirie à faire, bah, je l'imagine dans l'espace, comme je connais le tribunal, tout ça, et donc je me dis peut-être que là, je fais un silence. Il y a aussi cultiver le silence, parce que la voix, elle naît du silence, c'est là qu'elle prend son essor, à partir du silence, quoi. Voilà, il faut la nourrir d'imaginaire, beaucoup, mais elle a sa propre volonté, la voix.
Ça vous arrive d'entendre votre voix et d'entendre qu'elle n'est pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'elle est collée au sommet de votre cerveau, qu'elle est quelque part dans votre oreille droite et pas dans l'oreille gauche, qu'il n'y a pas de son stéréo? Comment vous faites dans ces cas-là? Recentrer la chose, la verticaliser et faire en sorte que le son soit vraiment organique et soit vous.
Ben, je crois que c'est des exercices de respiration, c'est des exercices aussi, quand on a le trac et tout ça, la voix se déplace, par exemple. Hein. C'est beaucoup d'accueil, accueillir sa voix, l'aimer. Mais bon, moi, je l'aime pas forcément. D'ailleurs, quand je m'entends, je me dis, ah bon, je la trouve très étroite au niveau de l'ampleur.
Vous la trouvez étroite, votre voix?
Oui.
Serrée?
Pas serrée,
alors,
mais...
Alors, si vous la trouvez serrée, je sais pas ce que disent les autres acteurs de leur propre voix, Annie Mercier.
Elle n'a pas d'ampleur, elle n'a pas de... par exemple, des fois, je voudrais exprimer une chose plus légère, plus nuancée, et elle, comme vous dites, elle est collée au plafond, la mienne. Voilà. Des fois, elle m'agace, quoi. Je trouve que c'est ça qu'on apprend aussi aux jeunes, si, quand ils font du chant, c'est justement à étendre l'amplitude de la voix, quoi.
Je vous propose d'écouter ce que disait une très grande chanteuse qui en a souffert, elle, de sa voix à la fin de sa vie, c'est Barbara.
La voix, elle, évidemment, elle vieillit. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai eu un moment de la voix qui s'est cassée et qui, bizarrement, revient maintenant. Enfin, bon, alors, il faut aller avec. Il ne faut pas aller contre les choses. Faut pas, quand, on, par exemple, on rentre en scène, on sent très laid. Bon, ça va arriver des soirs, encore bien que la scène rende beau, mais il ne faut pas aller contre cette laideur. Il faut aller avec cette laideur. Il ne faut pas lutter contre soi, mais être avec soi.
Vous y avez fait allusion au fait de ne pas lutter contre Annie Mercier, comme le dit Barbara. Il ne faut pas lutter contre. Lutter contre sa voix, c'est lutter contre soi, au fond.
Ben oui.
Mais si ça arrive, s'il arrive qu'on lutte contre, quels dégâts ça fait, quelles conséquences ça a. Et là, je parle par exemple de vous en scène, de vous en train de jouer, ou de vous en train, là, actuellement, de travailler avec Stéphane Desmoustiers sous les caméras pour ce film, La fille au bracelet.
Oui. Ma fille au bracelet. Oui, bah moi j'ai eu des vraiment des sentiments comme ça forts où je sentais que ce que j'éprouvais, l'émotion que j'éprouvais allait m'emmener dans un chemin et je me trouvais bloqué par la voix plafonnée quoi. Je sais pas comment dire, mais elle a raison, il faut pas aller contre, mais moi parfois je me rebelle contre ma voix ou alors quand j'ai eu une extinction de voix justement sur Tartre. Tartuffe, hein. Alors là, c'était l'angoisse totale, quoi. Quand on perd sa voix, alors ça, c'est une angoisse horrible, horrible.
Est-ce que vous attestez, comme tous ceux qui sont passés par ce grand plateau qu'est la Cour d'honneur, Annie Mercier, que pour la voix, c'est une sorte d'épreuve du feu? Vous avez joué là-bas par les villages, sous la direction de Stanislas Nordet. Il n'a pas fait beau tous les jours. Il a pu y avoir du mistral. Et on sait que le mistral dans la cour, c'est terrible pour les comédiens. Est-ce que c'est un baptême du feu, cette Cour d'honneur, pour la voix?
Alors moi, j'ai pas trouvé parce qu'on est sonorisé.
Et vous êtes sonorisé.
On est sonorisé.
Il faudrait qu'on en parle d'ailleurs de cette histoire de sonorisation parce que ça change des choses pour vous.
Ah hein, bah énormément.
Les micros.
Énormément. On met pas du tout la même force et la même volonté quoi pour projeter et tout ça. Moi, la Cour d'honneur, non, ça ne m'a pas, ça m'a pas paru une épreuve puisque j'étais sonorisé. Et alors là, je dois dire que. Au-delà du timbre et tout ça, et de la musicalité de la voix, parce que c'est très important, le rythme de la voix, il y a aussi le fait que c'est confortable avec sonoriser, mais ce qui compte aussi, ce que je dis moi aux jeunes acteurs, quand je fais des ateliers, c'est quand même de travailler aussi l'articulation, de savoir comment cette langue française, elle sonne, sur quoi, quelles sont les voyelles, les consonnes, enfin, il y a un travail comme ça, c'est peut-être mental, mais en tout cas, c'est très important.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont des instruments de torture pour la voix? Par exemple, Thomas Bernhardt.
Ben non, Thomas Bernhardt,
La logorée bernhardienne.
Ben la logorée, c'est formidable.
Mais alors ça fait quoi? Ça vous muscle la voix, ça?
Ouais, je trouve que... Et puis ça muscle aussi l'esprit, hein. Ça muscle l'esprit et l'intelligence, je pense. Et puis ça muscle la voix et la respiration. La voix, c'est aussi la respiration. Hein, c'est savoir où on fait une pause pour pouvoir mieux rebondir ou insister. Et Thomas Bernhardt, comme il ressasse. C'est moi, je pense beaucoup au mouvement aussi de la voix, à la musicalité. On a tous des musicalités très différentes. Et ça, c'est un appui aussi. Je vois par exemple sur le film Anaïs, elle parle très très vite. Hein. Et moi, au début, je disais, oh, elle a un débit très rapide. Et moi, j'ai pas du tout ça.
Anaïs Desmoustiers.
Oui. Et on me dit souvent que moi je tape sur les mots. Les metteurs en scène de théâtre, les réalisateurs de cinéma me disent « Pourquoi tu tapes sur les mots ?» Et moi je m'en rends pas compte, je tape sur les mots parce que j'ai l'impression que c'est aussi un tambour la voix quoi.
Je voudrais qu'on passe par les propos d'un philosophe, Philippe Lacoulabarthe, et vous allez voir Annie Mercier, mais un peu comme vous, sans doute l'exprime-t-il différemment. Il entretient avec sa voix un rapport assez compliqué, je dois dire.
Sans fausse coquetterie, sans fausse modestie, c'est une voix, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, que je ne supporte pas d'entendre de l'extérieur. Quelquefois même pour des raisons très profondes, et qui tiennent au passage de la voix d'autrui dans votre propre voix. Je n'aime pas non plus l'entendre de l'intérieur. Je reconnais simplement quelque chose, c'est que elle est hachée, distribuée, scandée, selon un certain rythme, et que, comme toute voix, j'imagine qu'elle est révélatrice. D'une certaine frappe, d'une certaine empreinte, d'un certain type dont je suis persuadé que nous sommes marqués, et qui, outre nos gestes, nos attitudes, sans doute notre manière de penser, mais aussi bien notre manière de nous déplacer, de saisir les choses, de fumer une cigarette, etc., impose certains traits à notre voix. J'ai l'impression ou le soupçon que la voix est ce qui révèle le plus d'un sujet, si tant est qu'un sujet soit révélable.
Alors ça, c'est incroyable ce que dit Philippe Lacoulabarthe, parce que quand on l'écoute, on se dit, mais quelle voix
a
cet homme ?
Il a une belle voix, oui.
Et pourtant, il dit qu'il n'aime pas l'entendre ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et il y a cette chose qu'il dit qui me trouble, parce que je pense qu'il y a un pont à faire entre vous et la voix du personnage, c'est-à-dire entre vous, les acteurs, votre voix à vous, acteurs, et les voix des personnages, quand il parle du passage de la voix d'autrui à l'intérieur. Est-ce que parfois la voix du personnage vient perturber la voix de la comédienne Annie Mercier ? Et est-ce que la voix du personnage, c'est une autre voix qu'il faut trouver ? Je voudrais qu'on ne soit pas trop évanescent en traitant cette question, mais concrètement, est-ce que vous avez éprouvé ce genre de choses, d'altérité au fond, à l'intérieur même de votre corps ?
C'est-à-dire qu'il y a des textes qui correspondent un peu mieux à votre voix, je sais pas, qui adhèrent un peu plus, ou vous adhérez un peu plus au texte. Par exemple, moi, Thomas Bernhard, ça me pose aucun problème, quoi. J'y vais franco, de go. J'aime ce ressassement et tout ça. Donc, ça correspond à peut-être à mon timbre et peut-être aussi à mon rythme. Je trouve que la voix a beaucoup à voir avec la musicalité. Et puis, moi, je suis très respectueuse du texte. Je suis une comédienne de texte. Et donc, je suis très modeste devant un texte. Et je pénètre peu à peu dans le texte, mais c'est le texte qui est pour moi le Graal, quoi. Donc ma voix doit s'adapter à ce texte. Alors des fois ma voix, je trouve, colle bien, vite, enfin assez bien, puis des fois plus c'est plus difficile, mais il y a un mariage qui se fait peu à peu, quoi. Est-ce que c'est la voix du personnage ? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est la voix du personnage que moi, je crée. Quoi. Voilà.
Vous dites, Annie Mercier, que la voix a à voir avec la musicalité. Ah, et vous avez très certainement raison. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'elle a à voir avec l'époque, c'est-à-dire les modes, et aussi avec, d'une certaine manière, l'origine ? L'origine familiale, l'origine sociale, bien évidemment l'origine géographique. Mais ça, c'est un peu une tarte à la crème de le dire, puisque ça, c'est ce qui va donner l'accent, les intonations. Mais vous faisiez allusion à Anaïs de Moustier en disant « elle parle vite ». Moi, une chose me frappe aujourd'hui chez les jeunes acteurs, c'est qu'ils parlent très vite. Et je pense que vous-même, Annie Mercier, vous ne parlez pas sur une scène de théâtre comme pouvaient parler les acteurs de la Comédie Française il y a quelques années, qui avaient dans leur voix quelque chose qui était tout à fait spécifique. Donc il y a des modes de voix.
Oui, ça c'est vrai.
Donc on est à la mode par sa voix, ou on peut ne pas l'être aussi de la même manière par
Exactement,
sa voix.
Ça je pense aussi, oui. Oui, puis il y a des modes de présentation de la voix, d'occupation de l'espace par la voix. Par exemple, moi je suis allé aux Assises beaucoup à cause de ce film. Et donc j'ai
Je rappelle que vous jouez le rôle d'une avocate de la Défense.
Voilà.
Vous allez vous nourrir à la source.
Oui, et donc j'ai été stupéfaite, parce que moi j'étais restée aux visions peut-être cinématographiques ou autres, emphatique, des effets de manche et tout ça. Pas du tout. Il parle comme je vous parle.
Non.
Je vous jure. Même, j'ai vu des plaidoiries et tout ça. Il parle comme ça aux jurés. Il vous parle comme je vous parle. Voilà.
Ah ben alors, si même dans les cours d'assises, on perd le sens de la profération, où va-t-on ?
Voilà. Il n'y a plus de profération du tout. C'est quasiment familial, je ne sais pas comment vous dire, avec les jurés. Ah oui, ça m'a beaucoup étonné.
Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression, Annie Mercier, que vous avez eu affaire aussi à cette chose qui pourrait exister, qui est qu'il y a des voix nobles, aristocrate, ou à qui on donne ces traits-là, et puis d'autres voix qui sont des voix peut-être plus méprisées, rejetées...
Plus populaires.
Voilà.
Ouais, moi je pense que c'est vrai, mais est-ce que c'est pas le choix du vocabulaire qui influe sur le timbre de voix, les tournures, une forme d'accent aussi qui a été héritée, par exemple d'une caste noble ou je ne sais quoi, et puis pareil pour les classes populaires, une forme de musique, si vous voulez, qui est reproduite, qui marque l'origine. Moi, je suis d'un milieu, ce qu'on appelle la classe moyenne, quoi, voilà. Et j'avais une mère qui était institutrice et qui avait une voix très éraillée, très très criarde. Moi, je n'aimais pas du tout. Mais en fait, c'était, paraît-il, qu'il lui manquait une corde vocale ou qu'il y en avait une plus longue que l'autre, plus courte. Enfin bon, un problème quand même de corde vocale, quoi. Elle était souvent à faune, d'ailleurs, de par son métier, mais elle avait une voix très très, oui. Très éraillée.
Vous auriez hérité de quelque chose de ce côté-là, de votre mère, parce que votre voix n'est pas éraillée, mais c'est une voix qui est... On sent que les cordes vocales sont travaillées d'une certaine manière.
Oui, oui. Bah, je pense que j'ai des nodules sur les cordes vocales. Mais oui, alors que j'ai une sœur qui a une voix très légère, très, très légère, très... pas ancrée, quoi. Non, je pense que... Comme disait Barbara, hein, la voix vieillit aussi, la voix s'affirme. Je sais pas. Ça n'a pas été une volonté de ma part. Ça s'est fait au fil du temps. Voilà.
Je rôdais dans toutes ces ruelles. Je respirais le goudron et les oursins du vieux port. Je me mêlais aux foules de la Canebière. J'aimais les tramways brimballants où s'accrochaient des grappes humaines et les noms inscrits à leur front.
Mardi, 5h. Février, mars, 1966. Chère Simone de Beauvoir, je sais que vous pourriez me dire que je vous écris lorsque je suis désespérée, surtout quand je suis désespérée. C'est vrai, et je suis fort désespérée.
De toute façon, estimait-il à juste titre, les banques ressemblaient à des aguicheuses en robe d'organdi, jamais prêtes le jour où l'on souhaitait s'occuper d'elles.
Cette petite conne est venue me supplier de lui foutre une sonde sous prétexte que je suis turque. Est-ce que je suis turque, voyez-vous ça?
Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha.
On ne pouvait pas se quitter, Annie Mercier, sans entendre, après avoir parlé de la voix pendant toute cette émission, quelques voix de très grandes comédiennes. Je ne sais pas si vous les avez reconnues. La première, c'était...
Anne Alvaro, ça, oui. Je l'ai reconnue.
La seconde, c'était Catherine Hegel. La troisième, c'était Véronique Nordet. Et la quatrième, c'était Christine Fersen. Et là, celle que nous entendons qui chante en allemand, c'est Nina Hagen.
Ah oui. Mais moi, je suis fanatique de toutes les voix de jazz, moi.
Ah bah tant pis, vous reviendrez alors.
On vous emménagera
quelques-unes.
Oui.
Merci mille fois, Annie Mercier, d'être venue nous parler si bien de la voix dans une saison au théâtre. On vous retrouve donc au théâtre dans le spectacle de Claudine Galéa à l'écran. Oui. Vous serez à l'écran. C'est dans Au Bois, mise en scène par Benoît Bradel au Théâtre de la Colline du 3 au 19 mai. Et puis on attend avec impatience la sortie de ce film que vous tournez actuellement avec Stéphane Desmoustiers, La fille au bracelet. Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Inès De Bruyne, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture. Restez bien à l'écoute. Und alles tut so weh. Tu das noch einmal.
Ah, 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 ah.